Bonsoir. Entrons ensemble dans le temps du débat, comme tous les soirs, du lundi au vendredi, entre 18h20 et 19h, sur France Culture. À l'ordre du jour ce soir, qui contrôle la force de l'ordre? Les déclarations récentes du président de la République, du ministre de l'Intérieur et du directeur de la police nationale ont été interprétées comme un changement de ton sur la question récurrente depuis plus d'un an des violences policières. Cette expression est désormais employée quotidiennement par les réseaux sociaux, par les médias, et semble entrer dans le langage commun, tandis que les forces de l'ordre elles-mêmes rejettent souvent son utilisation. Syndicats de police et organes de contrôle insistent sur la violence aggravée des manifestants et des protestataires pour justifier des réponses elles-mêmes plus importantes. Le temps du débat se demande donc ce soir, qui contrôle la force de l'ordre? Nous en parlons avec Michel Lavaux, il est porte-parole de la Police nationale. Bonsoir.
Bonsoir.
Avec Jean-Michel Schlosser, il est ancien inspecteur de police, il est sociologue, chercheur associé au CEREP, au CESDIP et à l'École des hautes études en sciences sociales. Il est auteur d'une thèse sur la formation des policiers de 1960 à nos jours qu'il a soutenue en 2018. Bonsoir.
Bonsoir.
Et avec Aline Daillère qui va nous rejoindre en studio mais qui est momentanément bloquée dans les embouteillages. Elle est consultante indépendante et ancienne responsable de l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture, la CAD. Bonsoir Aline Daillère. Vous êtes avec nous?
Bonsoir.
À tout de suite.
Oui, je suis là.
J'attends de nos policiers et de nos gendarmes la plus grande déontologie. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur là-dessus de me faire des propositions très concrètes. Il y a eu très clairement des images. Il y a aujourd'hui des affaires dans lesquelles je ne veux pas me prononcer, elles sont devant la justice. Des comportements qui ne sont pas acceptables ont été ou vus ou pointés.
Policiers ou gendarmes, représenter les forces de l'ordre, c'est être un modèle, c'est être respectueux, même face à ceux qui ne le sont pas. C'est garder son sang-froid, même face à la provocation, même face à la haine, même face au coup. C'est l'honneur de la police qui est en jeu. On ne fait pas de croche-pied à l'éthique, sauf à s'abaisser et à abaisser la police.
Dans un monde numérique où tout un chacun est aujourd'hui producteur d'images, intellectuellement honnête ou au contraire malveillant, il est plus que jamais indispensable de ne jamais trahir les doctrines, de garder en tout temps la mesure de la nécessité et de la proportionnalité. Nous risquons d'être entraînés dans un cercle vicieux où nous finirons par écorner nos valeurs et notre légitimité.
Voilà, nous avons entendu successivement Emmanuel Macron, c'était hier à Pau, puis le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et le futur ex-directeur général de la police nationale, Éric Morvan. Alors, quelle a été la réaction de ceux qui étaient autour de vous, Michel Lavaux, je rappelle que vous êtes porte-parole de la police nationale, après ces trois déclarations qui sont à peu près concomitantes et qui disent à peu près la même chose et qui peut-être ont surpris dans les milieux de la police?
Merci de nous donner la parole. Plusieurs choses, évidemment, en écho à ce que vous venez de dire. Tout d'abord, chaque policier de France sait qu'il doit être exemplaire. Il le sait parce que c'est le sens de sa mission. L'institution police nationale sait parfaitement que, peut-être encore plus maintenant que nous sommes dans un monde de transparence, notamment avec l'arrivée des réseaux sociaux, la police nationale sait qu'elle doit... parfois rendre compte et parfois surtout expliquer, informer. Donc effectivement, face à beaucoup de l'actualité qui a engagé la police depuis de nombreux mois, et on essaye souvent de, on scande souvent le début de cet engagement avec le début du mouvement des Gilets jaunes, même si
du
1er
décembre,
débat ne doit pas être circonscrit au
2018.
Voilà, mais c'est novembre 2018. 18, oui. Ouais. Effectivement, la question porte de plus en plus et très fréquemment sur l'usage de la force par les policiers et les policières en France. Cet usage de la force qui a été nécessité, qui effectivement est consubstantiel à l'action de police. C'est une action qui doit être, c'est un usage de la force qui peut être individuel pour interpeller un individu qui ne souhaite pas être interpellé et de le maîtriser, ou alors un usage de la force collectif qui intervient dans le cadre d'une manifestation et surtout une manifestation qui est devenue un attroupement et qu'il convient de disperser pour ramener l'ordre public.
Est-ce que les forces de l'ordre ont été surprises justement par cette montée en puissance de ce type de manifestation? Peut-être remonter un peu plus haut que novembre 2018, les lois travail 2015, c'était un moment très important aussi, avec des nouveaux modes de contrôle des foules et des manifestations, avec la généralisation de ce qu'on appelle le lynchage. Tout cela, on en a déjà parlé dans cette émission il y a quelques semaines. Tout ça, j'imagine que ça a participé à peut-être une surprise à l'intérieur des milieux des forces de l'ordre, Michel Laveau.
Alors, il faut toujours se garder, je crois, ce qu'on a tous toujours l'impression, chaque génération a l'impression de vivre peut-être une période qui lui est propre et qui apporte une réelle nouveauté. Maintenant, ce que je peux mentionner en nouveauté, c'est encore une fois le mouvement des Gilets jaunes et la réitération, la ritualisation de manifestations le samedi, tous les samedis, avec un engagement dans le temps profond, important et une mobilisation qui longue. N'en finit pas. On dit souvent, on a entendu tous cette expression, il faut savoir terminer une grève. Là, les policiers en France ont eu l'impression que ce mouvement ne se terminerait pas. Il y a eu également, et vous avez bien fait de le remarquer, effectivement, nous avions les prémices de groupes que l'on appelle, alors ce sont des groupes qu'on appelle les Black Blocs, je dirais plutôt que c'est une méthode Black Bloc qui a irrigué au-delà de ses créateurs. Et c'est vrai que nous avons le sentiment que des groupes radicaux n'ont de cesse de vouloir transformer des manifestations pacifiques qui rassemblent des personnes pacifiques mais qui sont juste en démonstration, en manifestation, en manifestations violentes et qui n'ont de cesse de solliciter et d'engager les services de police pour susciter leur réaction et donc l'usage de la force et donc, par un phénomène de foule souvent, de solidariser l'ensemble de la manifestation contre les services de police.
Aline, d'ailleurs, je rappelle que vous êtes consultante indépendante, ancienne responsable de l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture, la CAT, que vous avez travaillé justement sur cette question des violences policières depuis longtemps, en les documentant, comme d'autres l'ont documenté en termes journalistiques, comme David Dufresne par exemple. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette chronologie qui vient d'être avancée par Michel Laveau ?
Alors, il est certain qu'on constate une évolution dans le déroulement des manifestations ces dernières années, ces dernières décennies même. Mais les transformations du maintien de l'ordre sont un fait même du maintien de l'ordre, en fait, qui va aussi avec les transformations de la société, des manières d'exprimer l'opinion, etc. Et elles amènent indéniablement les forces de l'ordre à aussi faire évoluer leur méthode d'intervention. Donc ça, c'est un fait. Après, on constate quand même ces dernières années, enfin, en tout cas sur la dernière année, un recours croissant ou en tout cas inédit à certaines armes de portes intermédiaires, notamment dont on a beaucoup parlé et dont on n'a pas vraiment fait le bilan actuellement en termes d'efficacité, notamment sur le maintien de l'ordre et en termes de coûts sur l'impact que ça peut avoir dans les relations avec la population notamment. Et
là, vous parlez du LBD 40 par exemple
ou d'autres techniques de maintien de l'ordre ou même d'autres techniques d'intervention de la police, comme là on a beaucoup parlé ces derniers jours de la méthode du plaquage ventral, donc c'en est une parmi d'autres, mais c'est un tout, c'est une manière de concevoir la profession policière, une manière de concevoir la manière de maintenir la sécurité dans notre pays, qu'il est peut-être temps de poser sur la table afin de la faire évoluer.
Est-ce que Jean-Michel Schlosser, vous pensez, vous qui êtes un ancien inspecteur de police et sociologue depuis et qui observait donc entre ces deux mondes, pourrait-on dire, l'évolution de la formation des policiers depuis 1960 jusqu'à nos jours, est-ce que vous pensez justement que cette façon de se concevoir dans la société, de se regarder, de se projeter face aux autres dans la question du maintien de l'ordre, a évolué ou est-ce qu'en fait elle est restée encore un peu semblable à ce qu'elle était lorsque vous étiez vous-même formé en tant qu'inspecteur de police, c'est-à-dire qu'elle n'a pas beaucoup évolué depuis quelques années?
Alors, ici, elle a évolué, alors, notamment en matière de maintien de l'ordre. Bon, cela dit, il faut quand même observer un changement qui, pour moi, est très important, est un changement sociologique au demeurant. D'abord, je crois que les deux camps, je n'aime pas cette expression, mais malheureusement, la situation fait qu'on en arrive à le voir sous cette forme-là, j'y reviendrai peut-être.
Il y aurait peut-être un troisième camp, c'est le camp des observateurs, qui n'est ni d'un camp ni de l'autre, et qui tente de comprendre ce qui est en train de se passer dans les relations entre forces de l'ordre et ceux qui sont en face.
Ce camp-là, je vais vous citer Albert Camus, qui dit dans L'homme révolté que la violence est inévitable, et en même temps, injustifiable. Or, il se trouve que il y a des accès de violence, il y a une montée de violence en règle générale dans la société et qui n'est pas uniquement un fait de maintien de l'ordre. D'ailleurs, l'histoire nous rappelle que, parlons de 1934 par exemple, il y a déjà eu des manifestations extrêmement violentes et sans doute plus violentes. La différence, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est que la violence qui était auparavant perçue comme moyen et de plus en plus aujourd'hui non seulement perçu, mais utilisé également comme un but, comme une finalité. Et s'agissant des policiers, cette violence qui auparavant s'adressait au corps policier, parce que le corps policier était un paravent, c'était la chose qui empêchait certaines choses politiques, sociales ou économiques, donc la manifestation qui était dirigée contre l'État ou contre certaines décisions étatiques, se heurtait bien sûr à la présence des forces de l'ordre. Aujourd'hui, on a monté d'un cran et on s'adresse directement non pas au corps policier dans son ensemble, mais au corps du policier. Ce sont vraiment des agressions physiques et qui ont tendance à vouloir en venir à des fins, parfois sans doute brutales et définitives.
Qu'est-ce qui résiste, Michel Laveau, dans le corps des policiers ou des gens qui sont chargés du maintien de l'ordre, à cette remise en cause des méthodes, à cette discussion, à ce débat qui pourrait être un débat démocratique et qui visiblement trouve chez les policiers, dans les syndicats policiers ou ailleurs, trouve des résistances parce qu'on ne voudrait pas ce royaume de la transparence dont vous parliez, ce cop-watching comme on dit aux États-Unis, cette manière d'observer ce que font les policiers, ce filmage permanent comme on peut le voir aujourd'hui. On ne voudrait pas de ce contrôle citoyen, comme on l'appelle autrement, sur les actes des policiers, des gendarmes et des autres forces de l'ordre.
Alors je ne vous rejoindrai pas complètement sur le fait que les policiers résistent à toute évolution. Il est possible au demeurant que...
Néanmoins, une partie des discours est un discours de résistance, c'est-à-dire de dire nous ne voulons pas, voyez bien combien on est agressé, et la réponse que nous avons, c'est une réponse qui est à la hauteur de l'agression.
Mais peut-être que les paroles que vous prêtez aux policiers sont effectivement le reflet que le policier sur le terrain diagnostique, j'allais dire, terriblement le risque qu'il encourt. Avec une évolution de la menace et une évolution des prises à partie qui est très importante, et également une menace qui parfois peut se prolonger dans la vie personnelle. Mais je voudrais aussi rappeler que le policier a l'habitude de s'adapter, l'institution police s'adapte, et nous avons à mon sens relevé un premier défi, c'était celui de la mobilité, c'est-à-dire que face à des groupes radicaux qui étaient très mobiles et allaient commettre des troubles graves à l'ordre public et des dérégulations graves de commerce de centre-ville par exemple, J'ai vu quand j'étais sur le terrain des commerces de centre-ville particulièrement dévastés. Donc il a fallu que nous gagnions ce défi et que nous relevions ce défi de la mobilité pour empêcher ces groupes radicaux de perpétrer des violences sans limite. Mais il convient maintenant que nous relevions peut-être un nouveau défi, c'est celui de renouveler et de retrouver des modes de dialogue avec la partie pacifique des manifestants, parce que il y a, je crois, un enjeu. Le mouvement des Gilets jaunes a incité des manifestants à venir dans la rue alors qu'ils étaient néophytes et alors qu'il n'y avait plus d'intermédiation. Parce que nous avons, pardonnez-moi, mais nous n'avons devant des manifestations qui rassemblent parfois 5, 8, 10 000 personnes, nous n'avons plus d'intermédiaire entre la manifestation, la foule qui manifeste, et les services de police pour organiser, encadrer, prévenir un peu, travailler sur les itinéraires, travailler un peu sur les horaires, les itinéraires, les édifices sensibles. Et ça, c'est très, très problématique.
Oui, mais néanmoins, on sait qu'il y a maintenant, parce qu'il y a une génération Gilets jaunes, des gens qui sont venus régulièrement pendant toute une année dans les ronds-points et ailleurs dans les manifestations, qui a un savoir-faire manifestant, qui a touché des gens qui n'étaient pas habitués aux manifestations. Lorsqu'on discute avec des personnes qui sont des personnes âgées qui participent aux manifestations, par exemple, elles vous disent, attention, là, il faut vous plaquer au mur parce que les policiers peuvent venir, s'ils vous voient courir, ils vont vous taper dessus. Ça, c'est une expérience que souvent, ceux qui se trouvent dans les manifestations des Gilets jaunes n'avaient pas eu et ont découvert cette expérience, et ils l'ont découverte au fur et à mesure des manifestations.
Alors, au fur et à mesure des manifestations, oui, mais encore une fois, cela prouve que nous avions dans la rue beaucoup de néophytes. Mais je pense que sur les conditions d'usage de la force et sur, effectivement, des itinéraires, une manifestation n'est jamais anodine. Occuper la voie publique n'est jamais anodin quand vous êtes, encore une fois, 5, 6 000, 10 000. Et il convient, par exemple, de séparer les flux de circulation entre les manifestations qui sont à pied et les véhicules et les automobilistes qui sont autour. J'observe qu'il y a eu souvent beaucoup d'accidents, collatéraux, qui ont parfois été graves, parce que nous n'avions encore une fois pas travaillé ensemble, nous n'avons pas encore une fois de contact, et même certains leaders se défendaient même d'entretenir des contacts avec les services de police pour organiser le rassemblement.
Mais il faut peut-être
dans la
aussi
rue.
Faire, vous dites l'habitude de la police c'est de s'adapter, il faut peut-être se faire à ce nouveau type de manifestations qui ne sont pas forcément déclarées, ils n'ont pas forcément de porte-parole, c'est peut-être aussi une autre façon de faire. On n'est plus du temps du préfet Grimaud que qui a été cité récemment par Éric Morvan, le patron de la police nationale. Frapper un manifestant à terre, c'est se frapper soi-même, disait le préfet Grimaud, rappelons que c'était le préfet de mai 68, et que effectivement, Éric Morvan, patron de la police nationale, a dit récemment que citoyens et policiers doivent encore pouvoir se parler. Ça veut donc dire, Jean-Michel Chausser, qu'ils ne peuvent plus se parler pour l'instant ?
J'observe depuis quelque temps que dans ce domaine, mais comme dans beaucoup d'autres domaines, malheureusement, l'institution policière reste très centrée, très fermée sur elle-même, notamment si on la compare à d'autres polices européennes. Et qu'il y aurait un effort à faire dans ce domaine. Alors, Monsieur Lavaux parlait à l'instant des relations avec les manifestants qui sont difficiles parce que ce n'est pas dans un cadre de manifestation traditionnelle tel qu'on les connaît avec des organismes syndicaux, etc. Mais je dirais qu'au-delà de ça, il y aurait certainement une nécessité d'ouverture plus grande en termes de communication de la part des policiers. Et ça fait un petit peu défaut aujourd'hui.
Aline, d'ailleurs, c'est quand même étrange qu'il ait fallu attendre, disons, plus d'un an depuis le début de la manifestation des Gilets jaunes pour entendre président de la République, ministre de l'Intérieur, préfet de police, se plaindre de certaines images et dire tout compte fait, un croche-pied, c'est pas bien, par exemple, comme l'a dit Édouard Philippe, le Premier ministre, alors qu'on avait eu d'autres images qui ont été documentées depuis maintenant plus d'une année, des personnes éborgnées par l'LBD 40, des personnes frappées à terre, etc. Tout cela, et c'est étrange qu'il ait fallu attendre aussi longtemps. Qu'est-ce qui justifie, selon vous, Aline, d'ailleurs, vous nous avez rejoint en studio, donc cette prise de conscience soudaine des plus hautes autorités de l'État vis-à-vis de cette question du contrôle des policiers et des gestes des policiers sur le terrain.
Alors, c'est effectivement, ça peut paraître étonnant qu'il ait fallu attendre finalement aussi longtemps. Vous citiez les événements au moment des manifestations des Gilets jaunes, mais même bien avant, il y a d'autres cas, d'autres vidéos qui ont pu être diffusées ou des affaires médiatisées bien avant les Gilets jaunes. Donc, c'est certain que c'est...
Adama Traoré.
Exactement. C'est certain que c'est surprenant qu'il ait fallu attendre si longtemps. Cela étant, c'est quand même une avancée que d'avoir cet infléchissement dans le discours, dans la rhétorique et du Premier ministre et du Président de la République. Infléchissement qu'on peut regretter tardif, mais qu'on peut malgré tout saluer. Reste maintenant à savoir si ces propos, si cette volonté d'ouverture ou en tout cas de réflexion sur la manière dont on conçoit la police française et le maintien de l'ordre, etc. Si ces mots sont suivis des faits, en fait.
Michel Lavaux, la question que nous posons, c'est qui contrôle la force de l'ordre ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement, justement, qui contrôle ces forces de l'ordre dans leurs bonnes pratiques et dans leurs mauvaises pratiques ou les pratiques excessives que l'on a pu voir parfois ?
Oui, bien sûr. Juste, si vous me permettez, juste au préalable, rappelez que donc les discussions et vos analyses qui donnent à penser qu'il faut s'adapter et modifier un peu nos pratiques font l'objet de discussions précisément au sein du ministère de l'Intérieur
dans le cadre du livre blanc
et du schéma national de maintien de l'ordre qui est en cours de discussion, et donc les conclusions à l'issue des discussions qui ont été très partagé et très œcuménique, dont les conclusions seront rendues de façon de très prochaine. Donc, il y a une réflexion au sein du ministère de l'Intérieur sur les pratiques professionnelles autour du maintien de l'ordre.
Ensuite, c'est moins les réflexions internes qu'on imagine, effectivement, Michel Lavaux, que, disons, une expression publique, de regrets vis-à-vis de certains actes qu'on trouve un peu tardif parce que on la voit que maintenant, cette expression publique.
Permettez-moi de me cantonner à l'analyse des pratiques professionnelles et à leur évolution. Donc vous me posiez la question du contrôle, qui contrôle la force publique. Ben, sincèrement, j'ai envie de vous dire tout le monde. La police nationale contrôle en interne par ses corps d'inspection ses pratiques professionnelles. L'IGPN, que tout le monde connaît maintenant ici, contrôle par la voie administrative, par la voie hiérarchique, donc dans un contexte disciplinaire, contrôle les activités et les pratiques des policiers et des policières de France.
Ce sont près de 2000 sanctions. La gendarmerie, c'est l'IGGN aussi.
L'IGGN, et ce sont près de 2000 sanctions qui sont prises par an. Vous avez ensuite le contrôle judiciaire qui s'exerce sous la direction des magistrats, procureurs ou juges d'instruction, et qui vont, à la suite d'une plainte ou à la suite d'une enquête d'initiative, et à la suite, effectivement, une interpellation par un témoin qui n'est pas concerné suscite toujours des interrogations. Une interpellation, un usage de la force, c'est comme ça, je ne l'ai pas inventé, suscitera toujours des interrogations par celui qui assiste.
Donc, pourquoi, par exemple, le cas de Cédric Chouviat, vous me disiez avant le début de l'émission, donc mort le 5 janvier à l'hôpital après près de 48 heures après avoir fait un malaise cardiaque, qui avait été plaqué au sol, etc., avec le larynx explosé. Pourquoi ce cas-là n'est pas un cas de maintien de l'ordre que vous, enfin, vous ne l'imaginez pas de la même manière que, par exemple, ce qui s'est passé dans les manifestations des Gilets jaunes ou d'autres moments comme cela? Qu'est-ce qui fait la différence pour nos auditeurs, pour qu'ils comprennent pourquoi, selon vous, selon la police, ça n'est pas la même chose?
Parce que cet événement dramatique, dramatique, parce qu'aucune action de police ne doit mener à un décès. Cet événement dramatique n'intervient pas dans un contexte de maintien de l'ordre ou de rétablissement de l'ordre. Cet événement intervient dans le cadre d'une action de police de contrôle routier, qui est une action isolée. Et
vous comprenez que pour la plupart des auditeurs ou des spectateurs, c'est un peu la même chose. Ils ne font pas la même distinction que vous.
Dans les deux cas, un usage de la force.
Ce qui est, Jean-Michel Schlosser, de la formation. Vous avez suivi, en tant qu'auteur d'une thèse et ancien inspecteur de police, mais sociologue désormais, la formation des policiers de 60 à nos jours, de 1960 à nos jours. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces policiers, justement, sur cette force proportionnée nécessaire pour pouvoir maintenir l'ordre? Est-ce que cette question a évolué depuis 1960? Rappelons que 1960, c'était en pleine guerre d'Algérie, qui a eu entre-temps 1968 et tout un tas d'autres moments où il fallait maintenir l'ordre très différent d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a évolué?
Ce qui a évolué surtout, c'est l'arrivée du code de déontologie au moment de l'arrivée de la gauche au pouvoir en 80, je crois que c'est sous Monsieur Jox.
Et puis, il y en a un nouveau depuis. C'est 2014, le dernier code de déontologie de la police et de l'armée.
Avec des compléments. Cela dit, moi, ce que je peux regretter, c'est que je pense que Monsieur le Président de la République demandait à ce qu'on lui fasse des propositions d'évolution. Je pense que s'il y a une évolution à une proposition à faire, c'est de passer de la déontologie à l'éthique. C'est-à-dire à la réflexion sur quelles sont les valeurs qui sont mises en jeu, qu'est-ce que cela peut modifier dans mon comportement et en retour, qu'est-ce qu'il peut envoyer comme image aux personnes qui effectivement voient mon action. N'oublions pas que le code de déontologie à l'origine, finalement, c'est un condensé de textes que les fonctionnaires de police connaissent très bien, puisque pour la plupart, soit issus du code pénal, soit issus du statut général des fonctionnaires, et le fait d'avoir des cours qui exposent ex cathedra, si je puis dire, à la fois des prescriptions et des interdictions, à mon avis, à mon sens, aujourd'hui ne suffit plus. Il faut aller un petit peu plus loin. Et je pense que renforcer effectivement l'éthique, qui va dans le sens, je vais dire un gros mot, excusez-moi, de la philosophie, ça pourrait être un point à ajouter à la formation.
Vous avez même un collègue, Stéphane Lemercier, qui parle de déontique, la science étudiant les rapports formels entre concepts normatifs, obligations et permissions et interdictions.
C'est une forme de praxis.
C'est tout à fait nouveau.
Boulevard Richard le Noir, j'ai rencontré Richard le Blanc. Il était pâle comme l'ivoire et perdait tout son sang. Tire-toi d'ici, tire-toi d'ici. Voilà ce qu'il m'a dit. Les flics viennent de passer, histoire de se réchauffer. Il a monté à ses années.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Vous écoutez France Culture, le temps du débat, qui contrôle la force de l'ordre, avec nos trois invités, Michel Lavoux, porte-parole de la police nationale, Jean-Michel Schlosser, ancien inspecteur de police et sociologue et auteur d'une thèse sur la formation des policiers de 1960 à nos jours, et Aline Daillère, consultante indépendante et ancienne responsable de l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture, la CAT. Alors on entend effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, Jean-Michel Schlosser, que ces questions de relation de la police avec citoyens, c'est une question ancienne, puisque là, cette chanson de Juliette Gréco date des années 50 ou 60, ça s'appelait « À la belle étoile ». Aline, d'ailleurs, ce qui est peut-être tout à fait nouveau, c'est ce contrôle citoyen qui se met progressivement en place avec ces filmages, ces envois de David Dufresne à l'eau place Beauvau pour chacune des manifestations où on voit quelqu'un qui a été blessé par la police dans le cadre d'une manifestation. Disons, le cop-watching, comme on dit aux États-Unis, disons cette façon dont les citoyens considèrent qu'il y a maintenant, il n'y a pas que les policiers ou les forces de l'ordre qui doivent rendre des comptes à leur propre hiérarchie, mais que les citoyens doivent les observer également.
C'est un fait que les vidéos, les photos sont un moyen dont disposent les citoyens, les bénéficiaires de ce service public aussi de la police, de contrôler en fait le travail de la police. Et c'est pas un mal que les citoyens veuillent contrôler le travail de la police. C'est aussi un moyen, dans des cas qui posent question, d'établir des preuves, bien souvent, parce que les affaires dans lesquelles des agents de force de police ou de gendarmerie sont mis en cause sont des affaires dans lesquelles on n'a pas toujours de preuves, où la parole de l'un est renvoyée à la parole de l'autre, et des vidéos sont de fait, dans plusieurs affaires, des moyens de concourir à l'établissement des faits.
Est-ce que, d'une certaine façon, il y a, Michel Lavaux, une sorte de corps qui se protège, le corps des forces de l'ordre, le corps de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, et qui ne veut pas, disons, être mis en cause avec l'idée que si on met en cause un de ses membres, on met en cause la totalité des missions des forces de l'ordre en France?
Alors, un corps qui se protège, je vous répondrai non. Un corps qui, ou une maison qui, il y a beaucoup de solidarité, je vous répondrai oui, et j'en suis fier. Ensuite, effectivement, ce qui peut nous gêner, évidemment pas le contrôle. Je vous l'ai dit au début de l'émission, la police nationale est une institution transparente et ouverte qui doit rendre compte et qui doit informer. Le souci de ces images, c'est que précisément ces images, je trouve qu'elles résument, elles ont tendance, présentées par certains de nos détracteurs, à résumer l'action de la police nationale. Voilà. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tous les policiers se résument à ces images. Nous avons sur des grandes manifestations du samedi 25 000 policiers qui sont engagés pendant 6, 7, 8 heures, 10 heures. Et nous avons le sentiment que ces actions de 25 000, l'action de ces 25 000 policiers pendant toutes ces heures se résume à des images certes problématiques sur lesquelles il faudra expliquer, informer, rendre compte, s'expliquer devant au besoin un magistrat, ça ne fait aucun problème, mais la police nationale ne se résume pas à telle ou telle image.
Jean-Michel Chausset.
Oui, mais je suis parfaitement d'accord, mais j'ajouterais simplement que le discours en face, entre guillemets, est exactement le même. C'est-à-dire que les manifestants disent, on entend beaucoup les manifestants dire en ce moment que les images de certaines télévisions ont tendance à donner la primauté aux faits de violence commis par les manifestants en occultant le reste de leurs revendications qui peut être par ailleurs tout à fait légitime.
Oui, Michel Lavaux.
Sauf si vous permettez, que moi j'ai bien distingué la partie pacifique des manifestants, alors que précisément, je ne souhaite pas que l'on associe encore une fois l'image de la police nationale à toutes ces interventions qui peuvent poser question et sur lesquelles nous devons nous expliquer.
Aline d'ailleurs.
Le point est que le fait que de plus en plus de citoyens ressentent ce besoin de filmer d'avoir des images du travail de la police traduit aussi un certain malaise quand même des relations entre la police et la
malaise
population.
Malaise du côté des citoyens, mais on pourrait dire peut-être aussi malaise du côté des policiers.
Exactement, oui. Exactement. Et c'est quand même aussi un fait que la police pose question, enfin la police, les relations entre police et citoyens posent question en France, alors que dans d'autres pays, on n'a même pas ce type de discussion qu'on a là dans cette émission, en tout cas pas de manière aussi vive. Et c'est ce fait-là même doit poser question et doit nous amener à nous demander comment on est arrivé là, pourquoi, et éventuellement à se poser pour poser les choses à plat et,
oui. Et Michel Lavaux, il y avait une vieille phrase qui était utilisée souvent par les policiers, c'est je vous protège, vous me soutenez. En parlant de la société, il y a quelque chose qui s'est cassé dans cette phrase. Enfin, en tout cas, il y a peut-être des points de suspension entre « je vous protège » et désormais qui remplace la virgule « vous me soutenez ». Peut-être vous me soutenez à quelles conditions, dans quel contexte, pourquoi vous soutiendrais-je si vous pratiquez ceci ou ce type de plaquage ventral, ce type de LBD 40, etc., etc. Et disons, il y a des conditions qui sont mises à cette question du soutien de la population aux forces de l'ordre.
Alors, j'observe que les sondages, les sondages placent la police nationale, donne à la police nationale près de 70-75% d'opinion favorable, place la police nationale parmi les institutions et les services publics qui sont les mieux évalués. Et si on observe un peu plus précisément certains sondages, les personnes qui ont affaire à la police sont souvent, ont souvent une opinion meilleure que celle que vous avez ex nihilo, c'est-à-dire avant le premier contact. Donc les sondages...
vous allez encore dire que ce sont les médias favorables. Qui ne font pas leur boulot.
Non, je ne veux pas dire. Je pense en revanche que nous parlions des réseaux sociaux tout à l'heure. Il y a sur les réseaux des communautés militantes qui sont très très dynamiques, très très mobilisées et qui captent une parole qui les rend très audibles et qui n'est pas celle et qui ne représente pas la parole de la grande majorité des Français, encore une fois 70-75% qui sont d'opinion favorable, mais qui finalement le disent pas ou le disent moins ou le disent différemment. Après qu'il y ait une ardente obligation de nourrir le lien entre police et population, c'est évident. Et je rappelle qu'une conférence citoyenne a été tenue au ministère de l'Intérieur ce week-end encore et a rassemblé...
Elle doit continuer encore.
Et doit se poursuivre. Et des conclusions seront rendues par un panel de citoyens sur ce qu'ils attendent de la police, ce qu'ils ont observé de nos pratiques et de nos organisations et de nos fonctionnements. Et dans le cas du livre blanc dont les réflexions sont menées sous l'autorité du ministre de l'Intérieur actuellement, qui livreront des propositions pour modifier, améliorer ce lien.
Je vous propose d'écouter Patrice Pinozzi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et spécialiste des libertés publiques. Il était sur France Inter hier matin.
Je pense qu'il y a des dérapages. On les voit. Il y a des dérapages qui sont certes isolés, mais qui d'un seul coup rejaillissent sur l'ensemble des forces de police. Donc ce qu'il faut faire, c'est à mon sens, évidemment sanctionner les dérapages individuels pour que l'institution montre elle-même qu'elle ne cautionne pas ce type d'actes qui sont tout à fait inacceptables. Il faut tirer les conséquences de ce qui est en train de se passer et revoir la formation de l'ensemble des personnes qui maintiennent l'ordre. Et trois, on reparlera si vous le voulez du LBD, mais il y a quand même un sujet, c'est que quand on laisse entre les mains de policiers dont on sait qu'ils sont précisément sous pression une arme dont on sait qu'elle est susceptible de pouvoir faire des dégâts très importants, eh bien évidemment qu'il y a un risque. Il y a un risque de dérapage. Et l'idée que nous soutenions, c'est que à partir du moment où on supprimera le LBD de l'arsenal du maintien de l'ordre, eh bien par nature, de facto, eh bien on limitera le risque de dérapage avec l'utilisation de cette arme.
Alors voilà, c'est ce que tout le monde semble dire. Pourquoi ne pas supprimer le LBD? Je vous vois, Michel Laveau, non, c'est pas la solution de supprimer le LBD. On a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui niche dans cette question des armes, et en particulier de cette arme-là. Très brièvement, avant que je donne la parole à Aline Dayer et à Jean-Michel Schlosser.
Tout simplement, et je vous le disais tout à l'heure, que nous avons le sentiment d'être au cœur de l'opérationnel et de la violence qui est parfois, pas toujours, mais parfois nichée dans certaines manifestations, et que le LBD précisément est fait pour assumer une distanciation entre des groupes.
On a vu des images où la distanciation n'était pas si grande que ça.
Certes, hein, mais ces images font l'objet d'une enquête. Encore une fois, ça c'est une action qui fera l'objet d'une enquête et sur laquelle nous aurons à nous expliquer. Mais à l'origine, le LBD est fait pour assurer une distanciation qui précisément, quand vous avez de la distance entre les manifestants et les policiers, c'est toujours un gage de pas de corps à corps et pas d'usage de la force supplémentaire.
Mais néanmoins, on sait que la façon dont on pratique en manifestation a changé et que justement, il y a plus d'interventions qu'il n'y en avait auparavant, puisque, et là vous pouvez peut-être aller dans ce sens-là, Jean-Michel Chaussure, en tant qu'analyste, eh bien justement, cette distance était beaucoup plus grande, et très récemment, il y a quelques années, on a décidé d'aller plus au contact, et c'est peut-être aussi cela qui conduit à des dérapages dont on parlait à l'instant.
Alors, il y a ce changement, effectivement, de façon d'intervenir qui a modifié beaucoup le contexte des manifestations. Sur la formation, je voudrais quand même dire une chose qui me semble très importante et qui est très peu souvent dite. En termes de formation initiale, ça se passe très bien. Par contre, le gros problème réside dans la formation continue, qui est le parent pauvre de la formation. Et s'agissant plus particulièrement des techniques de ce qu'on appelle les gestes et techniques professionnelles d'intervention, il y a des crédits d'heures qui sont notoirement insuffisants et qui, bien souvent, lorsqu'ils existent, servent à dispenser d'autres formes de formation, notamment des validations à l'utilisation de certaines armes, mais ne permettent plus un entraînement continu. Et ça, c'est un problème.
Oui, puis il y a aussi peut-être autre chose, on a parlé de la documentation justement de ce qui se passe en manifestation ou dans des pratiques de maintien de l'ordre. L'Institut, l'IGPN avait recensé simplement depuis un an la question des décès et des blessés graves, c'est tout récent tout de même, c'est une innovation pourrait-on dire. Vous notez, Aline Dayer, qu'il faut des citoyens comme vous, des associations comme d'autres pour pouvoir documenter ce qui se passe dans ces moments-là, dans ces moments de contact entre forces de l'ordre et citoyens manifestants par exemple. Donc il faut trouver les moyens d'aller chercher la documentation, de pouvoir la rendre publique, etc., etc. Ça n'est pas toujours fait par les forces de l'ordre elles-mêmes.
C'est effectivement une nécessité pour aussi comprendre comment les choses se passent, comment la police travaille, comment les citoyens reçoivent ce travail. Après, je voulais juste revenir sur les propos sur l'analyse de Monsieur Spinozzi à laquelle je souscris totalement. C'est une chose d'interroger les dérapages, ce qu'on a qualifié de dérapages individuels, de rappeler la déontologie ou l'éthique, comme on le disait tout à l'heure. C'en est une autre de questionner aussi la responsabilité de l'institution. Et ça devrait, à mon sens, être fait également. Effectivement, mettre entre les mains d'agents des armes dont on sait qu'elles mutilent, c'est un risque et c'est vouloir avoir une certaine conception de la manière dont on fait police. Il y a derrière le LBD effectivement une sorte de cristallisation parce que cette arme a blessé énormément et qu'elle est un symbole aussi. On a un dialogue diminuant entre la police et la population et à la place un recours croissant à des armes telles que les LBD ou les grenades.
Et c'est un problème. Et pourtant, cette conférence citoyenne convoquée par le ministre de l'Intérieur avec un panel choisi de 100 personnes dit qu'il faut associer les citoyens à la réflexion sur la sécurité de demain. Est-ce que les forces de l'ordre sont prêtes justement à associer véritablement les citoyens à cette sécurité de demain, c'est-à-dire à mettre peut-être encore plus au clair que ça n'est le cas aujourd'hui, Michel Lavaux, les questions qui tiennent au maintien de l'ordre.
Alors, elles le font depuis longtemps et je voudrais rappeler la police de sécurité du quotidien qui a été lancée il y a quelques années et précisément, en fait, quand lors de cette conférence citoyenne, nous avons présenté nos pratiques professionnelles, nous nous sommes appuyés sur les pratiques professionnelles que nous avons développé dans le cadre de la police de sécurité du quotidien avec des comités de quartier, des groupes de partenariat opérationnel, des liens denses, étroits, réguliers entre eux, des policiers de terrain, des élus de terrain, des partenaires sociaux, des bailleurs sociaux, des sociétés de transport pour, dans chaque secteur, essayer de répondre aux questions de sécurité. Donc ce sont des pratiques qui existent, qui peuvent être améliorées, c'est le but, mais qui existent déjà.
Et quand on en parle à l'extérieur, à l'étranger, on voit bien effectivement qu'il y a un regard porté, Jean-Michel Chausser, sur les pratiques de maintien de l'ordre qui peut surprendre parfois et qui fait que certaines institutions, je ne reviendrai pas sur le cas de l'ONU qui a été critiqué par les instances gouvernementales dans son rapport justement au maintien de l'ordre, mais néanmoins d'autres institutions ou d'autres observateurs étrangers qui trouvent étrange qu'on tienne encore à cette méthode de maintien de l'ordre telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, alors qu'elle pourrait peut-être évoluer dans un autre sens.
Elle pourrait évoluer dans le sens où la font évoluer par exemple les Allemands et je pense surtout aux Anglais, hein, qui en termes de communication notamment, mais pas que, ont mis au point des outils de désescalade, pour employer une expression qu'on emploie souvent. On pourrait s'inspirer de ces modèles-là, mais il est vrai que, allez, c'est pas dans l'habitus de la police française.
Ah, vous parlez comme un sociologue et comme un ancien inspecteur de police.
Non, mais c'est bien. C'est pas dans l'habitus de la police française de travailler en relation avec les chercheurs, mais pas que aussi, hein. Et puis, c'est assez traditionnel. Le professionnel est sûr de son geste et il n'est pas question que quelqu'un qui n'est pas professionnel vienne lui faire des remarques. C'est difficile de franchir ce fossé.
Michel Lavaux, vous êtes d'accord? Vous pensez qu'il faudrait aller plus dans ce sens-là?
Alors, d'abord, peut-être rebondir sur ce que dit M. Chausser juste avant à propos de la formation. Je l'ai entendu et c'est vrai que peut-être qu'effectivement, nous avions des marges de progression en matière de formation. Et je veux ici dire que la période des attentats et le risque causé par les attentats a redonné ces lettres de noblesse à la formation, qui est dorénavant, parce que nous savons que le risque est dense et qu'effectivement, il faut former nos fonctionnaires. Donc, nous nous sommes réconciliés en police nationale depuis plusieurs années avec la formation.
Et donc, vous pensez que, mais sur la question plus exactement de laisser entrer, d'ouvrir les portes, de discuter, de débattre, très brièvement.
Je suis pas un spécialiste de police comparée, mais permettez-moi de dire que quand il m'arrive de regarder l'actualité, je vois parfois que mes collègues à l'étranger rencontrent les mêmes problématiques que la police française. J'ai quelques exemples récents. Donc, effectivement, il convient pour nous d'être, encore une fois, d'être apte à la réflexion sur nos pratiques et ouvert à d'autres réflexions. Mais je crois que d'autres polices rencontrent d'autres problèmes.
Merci beaucoup d'être venus tous les trois. Je rappelle Michel Lavaux, porte-parole de la police nationale. Jean-Michel Chaussière, ancien inspecteur de police et désormais sociologue, chercheur associé au CEREP, au CESDIP et à l'École des hautes études. Et également Aline Daïer, consultante indépendante et ancienne responsable de l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Rémi Baille, Hugo Boursier, Louise André à la technique aujourd'hui, Élise Leheu à la vidéo, Morgane Danon et à la réalisation Marie-Laure Ciboulet. Il est 19h, merci d'être venu donc pour ce temps du débat.